n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Je suis Charlotte, cofondatrice de Juillet, une agence événementielle dont la raison d'être est la rencontre. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui, avec audace, ont choisi de vivre passionnément. Ce rendez-vous est une rencontre avec des personnes inspirantes et peut-être une rencontre avec vous, avec cette personne que vous serez demain. C'est la saison 3 de l'Instant Juillet, alors posez-vous, respirez, et puisqu'il n'y a pas de hasard, découvrez notre invité dont la rencontre bouleverse notre chemin, et pourquoi pas le vôtre. Voici déjà notre 33e épisode, et voici enfin celui de Pierre. Je dis enfin parce que cela fait quelque temps que nous pensions enregistrer une conversation avec Pierre, mais je tenais à ce qu'elle soit au bon moment sur notre chemin, et je ne sais pas vous dire pourquoi, mais j'ai le sentiment que c'est maintenant. Pierre Guabeau vient d'avoir 40 ans. Je l'ai rencontré il y a 4 ans maintenant, alors qu'il arrivait en Loir-et-Cher pour diriger l'EHPAD de Bracieux. On pourrait imaginer que ce n'allait pas Juillet, un directeur d'EHPAD, mais vous allez voir que Pierre est une personne Juillet dans son parcours de vie, ses valeurs, ses passions, et surtout le fait que l'amour de l'autre, le lien et la rencontre soient au cœur de ses projets de vie. Aujourd'hui directeur de 4 établissements, médaillé de la Légion d'honneur et auteur du livre « Les aventuriers de l'âge perdu », Pierre est un homme hors du commun, dans le sens pur du terme. Il n'est pas comme les autres. Alors c'est avec beaucoup de fierté que je vous présente Pierre, le temps d'un instant Juillet. Pierre, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité sur l'instant Juillet. Tu dis souvent que tout le monde a besoin de se sentir exister dans le regard de l'autre. Et je trouve que cela définit bien ton engagement pour réenchanter les fameuses maisons de retraite. Mais au-delà de ça, ton investissement au quotidien pour faire vivre nos territoires. Tu fourmis d'idées, de projets, mais ils ont tous pour point commun l'amour de l'art et de la vie. Bon, on ne va pas se mentir, tu en as agacé plus d'un en remuant un peu trop. On te dit excessif, mais je dirais que tu es plutôt impatient et passionné. Et je crois qu'au fond, tu as ancré en toi le fait que rien n'est impossible. Est-ce que je me trompe ?
Rien n'est impossible, ça c'est une certitude. Excessif, ça supposerait, si on le caractérise en forme superlative, qu'on serait à côté. La seule chose qui m'intéresse, pas seulement en tant que directeur d'EHPAD, et tu l'as très bien souligné, aussi en tant qu'homme, mais en tant que citoyen, c'est de se dire qu'on n'a pas à se résigner dans une situation où ce qui fait notre point commun, c'est notre humanité. Et un des dénominateurs communs que nous avons, c'est notre capacité à être aimant, aimable et aimé. Alors oui, ce travail n'est plus qu'un travail, c'est un engagement avant tout d'homme qui considère qu'au moment les plus fragiles de nos vies, on a le devoir de proposer une main tendue. Qu'il soit dans un EHPAD ou ailleurs, c'est qu'en fait on existe au regard de l'autre. Si ça c'est être excessif, alors je dis non, parce que justement, ce qui serait excessif c'est de tourner la tête à tous les moments de notre vie. Alors oui, il y a des choses qui nous rassemblent, parce que ce qui m'intéresse ce sont les dénominateurs communs. Quand tu rentres dans un EHPAD, tu as devant toi la plus grande fragilité de la vie, ce qui sera pour beaucoup la dernière étape de vie. Ce que je trouve le plus formidable, c'est de se dire que est-ce que notre métier, c'est d'héberger des gens dépendants ou c'est d'accompagner des femmes et des hommes dans leur situation de fragilité pour qu'ils restent en situation de dignité avec leurs proches toute leur vie. Parce que oui, même en fin de vie, on est aimant, aimable et aimé. Dans ma propre histoire, de ce qui fait résonance en moi, j'ai été très marqué par un discours de Malraux. Pourtant, je ne suis pas de la génération de Malraux. Mais d'un discours que j'avais entendu, qui était le discours sur l'inauguration de la MJC d'Amiens. Donc la maison de la jeunesse et de la culture.
Ouais, d'Amiens, alors là ça fait vraiment...
En Picardie quoi.
Ouais.
Donc là où tout ce qui pourrait être stigmatisant socialement, tout ce qui peut paraître non élitiste, Malraux a dit quelque chose d'essentiel, la culture est ce qui nous rassemble. Notre humanité partagée trouve un dénominateur commun qui ne fait pas dissensus, c'est la culture. C'est l'universalité de la culture. Et quand je suis arrivé dans le Loir-et-Cher, c'était plutôt le hasard de la vie, parce que c'était le seul poste où je pouvais rentrer chez moi le week-end, faut être très clair. J'habitais Rouen à l'époque, et mon épouse qui avait fait beaucoup de sacrifices avec ma petite de l'époque, elle avait 1 an et demi, je suis parti 3 ans me former à Rennes. Et quand j'ai fini ma formation à Rennes, il fallait bien trouver un poste à proximité. Je suis arrivé en Loir-et-Cher, Et très vite, cette aspiration à un projet social, c'est-à-dire au-delà du seul métier de directeur d'EHPAD, c'était de proposer une lecture humaniste des choses, dans une période qui interroge toujours. Et j'ai rencontré des gens formidables dans le territoire du Loir-et-Cher, notamment Yannick Mercoirol à Chambord. C'était au moment où on préparait le 500e anniversaire de Chambord.
Et puis là, culturellement, là, voilà, t'es face.
Et là, on avait à la fois ce que la culture la plus, on va dire, patrimoniale donne à voir. Et je vais te citer cet exemple qui caractérise très bien, finalement, à la fois mon engagement professionnel et aussi une certaine idée de l'autre que je me fais. J'ai proposé à Yannick Mercoirol et au Domaine National de Chambord que finalement, les plus fragiles d'entre nous, ces QFD, les personnes que nous accompagnons dans nos résidences, participent à leur façon au 500e en interrogeant l'humanisme aujourd'hui tel qu'on leur propose, tel qu'on donne à voir dans nos territoires et en proposant un geste culturel. Et pour ça, j'ai facilité la rencontre entre un incroyable monsieur qui s'appelle Sylvain Groux, qui dirige le Ballet du Nord à Roubaix, qui est un magnifique chorégraphe et qui est venu proposer une lecture assez contemporaine d'une pièce chorégraphique qui s'appelle L'oubli, en référence à la maladie d'Alzheimer, et ce droit à la fragilité, ce droit à la démence, autour d'une pièce chorégraphique dansée aussi bien par des résidents, des habitants du territoire et des danseurs professionnels, dans le cadre du Festival de Chambord. Cette action-là, elle caractérise pour moi ce que j'aspire, en tout cas comme citoyen en tant qu'homme, que dès lors qu'on est capable de ressusciter ce besoin intrinsèque que nous avons tous d'être aimant, aimable et aimé, alors on peut trouver des médias comme l'art et la culture qui sont capables de nous transcender. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on propose ce type d'action, il n'y a plus de fragile, il n'y a plus d'aidant, il n'y a plus de professionnel. On est tous citoyens. Alors si être excessif, pour reprendre à la situation, c'est justement vouloir bouger les choses, alors oui, soyons excessifs dans ce besoin de vivre.
Et ce mais surtout que toi, tu es face à des gens qui sont en toute fin de vie. Et ce que j'avais trouvé très fort la première fois qu'on s'est rencontrés, parce que j'avais beaucoup aimé cette vision-là, c'était justement que toi, tu n'avais pas la sensation de dire « Ah, c'est terrible mon travail, j'accompagne des gens qui finalement vont mourir bientôt ». Toi, tu étais plutôt de dire « C'est leur dernier jour, dernière semaine de vie et donc je veux qu'elle soit formidable. Je veux que ce soit les meilleurs moments possibles à vivre parce que c'est les derniers qu'ils vont avoir. En tout cas, effectivement, ils sont à un âge où ça ne va pas durer encore des années. Et donc, moi, mon rôle, c'est de rendre ces jours-là exceptionnels. Et donc, chaque jour peut être le meilleur jour. » Et j'avais trouvé ça vraiment très fort parce que, sincèrement, dans les clichés qu'on a ou non, dans la représentation des maisons de retraite qu'on a, c'est vraiment des gens, on les dépose pour mourir, quoi. Et en fait, on a l'impression, quand on rentre ici, qu'on est ici pour justement vivre, vraiment.
Et oui, déjà, c'est un très beau compliment. Mais ce regard-là que tu as pu porter en venant nous visiter, c'est ce qu'on essaie aussi de permettre chez la personne accompagnée elle-même, c'est-à-dire chez les personnes qu'on héberge, ce qu'on dit les résidents, mais aussi leurs proches, qui à un moment vivent finalement presque comme une sanction sociale, soit d'être un fardeau pour leurs enfants, parce qu'on arrive à un moment où on ne peut plus être chez soi, le sentiment de culpabilité pour les aidants, les enfants, qui disent « je n'ai pas pu t'accompagner jusqu'au bout ». Et on se dit, si la dernière chose qu'on a à partager, c'est la question de la culpabilité de l'un ou de l'autre, alors la vie serait bien triste. Et si tu dis à quelqu'un, mais en fait, oui, je te reconnais dans ta fragilité, bien sûr que tu peux perdre la tête. Bien sûr que tu peux avoir perdu en indépendance et que je suis obligé, d'être aidé. Et que pour ça, ça ne fait pas de toi un sous-citoyen. Ça nous donne, nous, une responsabilité d'accompagner ceux que tu aimes et de proposer un autre regard à la société civile pour dire, mais en fait, tu es aimant, aimable, et aimer, et à nous de mettre de la vie, à nous de proposer des choses qui font qu'on n'est pas un résident, on est un habitant, un citoyen comme un autre, mais qui a des besoins spécifiques. Alors tout ça, ça peut être extrêmement léger, et plus justement, on est capable, mais dans nos résidences, mais ailleurs dans nos vies de femmes et d'hommes, de dire, mais regardez le monde pour ce qu'il est, c'est-à-dire avant tout, une somme d'opportunités à saisir. Et j'ai été saisi... aussi en rencontrant des gens comme toi, des gens comme Audrey Diallo, que je sais que vous avez interviewé, une richesse en territoire du Loir-et-Cher de, d'une communauté de destin, de dessin, de femmes et d'hommes qui n'avaient qu'une envie, c'est de se dire mais on peut dépasser les limites. On peut porter des projets qu'on pensait impossibles. Alors là, on va ouvrir un tiers-lieu culturel, on va être labellisé centre d'art contemporain. On permet de la pratique amateur de musique, aussi bien pour des gamins du collège, des écoles que de nos résidents. Mais en fait, tout peut devenir très simple.
Mais tout ça, en plus, c'est une excuse à la rencontre. C'est-à-dire que c'est en fait, là, c'est, tout ça, c'est en fait un moyen de dire on va vers l'autre et on trouve une excuse pour aller découvrir l'autre, pour aller apprendre de l'autre, pour aller transmettre à l'autre.
J'ai pas de feuille de route tracée à l'avance en disant demain, j'aurai l'annexe de l'école de musique dans mes résidences. Non, il s'avère qu'un jour, on a fait le constat, par exemple, qu'on avait une difficulté d'accès pour les gamins du sud de Chambord. Il y avait bien une école de musique qui était à Saint-Laurent-Nouan. Et on s'est dit, mais en fait, cette même école de musique intercommunale, elle aurait besoin de locaux. Moi, j'ai des locaux. Allons-y, faisons un truc, ça peut être génial. Et puis, du coup, la musique, c'est universel. Et on va proposer aux gamins de venir ici le mardi soir. Et puis, du coup, ils vont pouvoir faire des projets avec les résidents. Et puis, même que les résidents, ils peuvent aussi avoir une sensibilité à la musique. Et puis, d'un seul coup, c'est devenu léger. Et puis, toutes les actions comme ça peuvent être légères. Un projet amène l'autre. Et plus tu permets à l'autre de se dire, mais bonjour, je m'appelle Pierre. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Et déjà, dis-moi qui tu es. Mais en fait, tu t'aperçois que si tu ouvres pas seulement ton cœur, mais ta porte, ben, les gens viennent.
Ben c'est sûr. Mais ce que je trouve génial, c'est que c'est là tout l'intérêt, je trouve, justement, quand on dit à quelqu'un, quand nous, on a pour objet de dire « être juillet », c'est, tu vois, de te dire que quel que soit ton métier, en fait, ce que tu as en toi et ce que tu veux faire, c'est la rencontre. C'est transmettre, c'est partager. Et tu vois, tu évoquais Audrey. Elle a un métier totalement différent, mais au final, son métier, elle aussi, c'est pareil. C'est la rencontre, c'est transmettre, c'est partager. Et nous, ce qu'on est en train de concevoir là, c'est un métier qui est encore totalement différent, et c'est pareil. Le but, c'est la rencontre, transmettre, partager. Et en fait, c'est peut-être ça aussi la base, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, ce que je porte, la base de l'humanité, c'est ça. Et donc, rencontrer, transmettre aux enfants, et rencontrer, transmettre de personnes âgées qui ont vécu des vies certainement diverses, incroyables, etc. Et que donc, jusqu'à la fin, elles peuvent être des rencontres incroyables et transmettre des choses infinies. Quoi.
Mais une personne âgée, c'est juste une personne qui est en situation d'âge. C'est-à-dire qu'elle a aussi sa propre vie. Elle a eu le caractère qu'elle avait.
C'est ça.
Les problèmes de famille, comme nous, on nous les connaît. Elles ne sont pas... Être en situation de dépendance ou perte d'autonomie quand on est âgé ne nous donne pas des droits en plus, ni de devoirs en plus. Elle fait simplement qu'on a des besoins différents. Et donc, j'aime bien repenser aux choses très basiques. Si on est dans une société qui ne regarderait plus ce droit à la différence, ce droit à la fragilité, alors en fait, tout serait extrêmement hygiénique. C'est-à-dire qu'on serait beau, en bonne santé, productif. Qu'est-ce que serait ennuyeux ? Et qu'est-ce que c'est angoissant, une société qui ne donnerait à voir que les choses belles, fraîches et jeunes ? La réalité, c'est que les choses les plus puissantes que je n'ai jamais vues, c'est celle quand on permet à tout le monde d'exister là où il a envie d'être ou là où il peut être.
Non, mais c'est surtout qu'en plus, quelle valeur tu donnes à la beauté, à la perfection, par exemple, comme tu pourrais dire, si derrière, il n'y a pas toutes ces failles, si derrière, il n'y a pas tous ces moments de tristesse ou de doute. Il n'y a rien qui est plus beau qu'un bonheur, qu'une réussite, après, justement, que tu aies eu une galère, un échec, que tu aies douté, etc. Et finalement, tu arrives à réussir ton projet et tu te sens heureux. Pourquoi ? Parce que tu sais que là, tu es dans un moment de bonheur parce que tu as vécu des choses moins drôles avant et que tu en verras peut-être moins drôles après, quelque part. Ce qui fait la perfection, c'est justement toutes ces petites failles, ces petits détails de choses qui sont autour.
J'ai un souvenir dont j'ai peu parlé. J'étais enfant et j'avais une maman qui était une passionnée de littérature et qui peignait. C'était très amateur, mais qui avait un don certain. Et première fois, je devais avoir quoi, 7-8 ans, que je vois un tableau et je lui dis mais il est pas beau parce qu'en fait il représente pas avec précision la réalité. Et je me souviens de sa phrase déjà à l'époque et qui a une résonance particulière aujourd'hui. Elle me dit le plus absolu ce n'est pas de refléter la réalité, c'est de comprendre comment on regarde le monde.
Oui, la vision finalement de l'artiste, qu'est-ce qu'il a voulu montrer.
Voilà, qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et finalement À chaque fois que je peux m'émerveiller ou que je peux détester une œuvre, ou ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui elle a déplacé en moi. Et c'est pour ça ce sujet-là, il est essentiel. Quand je permets et j'encourage les équipes, les partenaires du territoire, à proposer ici beaucoup d'art contemporain, autour des arts plastiques, autour des arts du vivant, du spectacle vivant, mais aussi des fois des choses plus traditionnelles, c'est qu'en fait on permet à chacun de faire l'expérience d'une sensibilité, d'une émotion. Et que là où on va se retrouver, c'est pas seulement sur le fait d'avoir un avis identique, c'est qu'on est capable de se réunir sur l'émotion qui nous a touchés. Et c'est ça le dénominateur commun. C'est pas l'avis unique, c'est notre capacité à nous avoir touchés et à le faire vivre ensemble dans quelque chose qui nous déplace. À l'heure actuelle, tu m'accorderas que c'est presque un engagement citoyen et militant.
Mais c'est sûr.
Et je ne mets pas de politique partisane là-dedans. Je crois qu'aujourd'hui...
Je veux dire la liberté de penser, le droit d'être... voilà, je vois bien ce que tu veux dire.
Quand tu interroges tous les jours, dans le contexte de la crise sanitaire, des morts que nous avons eues dans les EHPAD, il ne faut pas les oublier... Je rappelle que l'EHPAD de Bracieux notamment, mais d'autres aussi, l'EHPAD de Comte que j'ai eu, l'EHPAD de Courchevel, tous nos EHPAD ont eu des morts liées au Covid. Au-delà des seules morts, on a interrogé cette fragilité de la vie. On a interrogé la société tout entière, a pris pour la première fois en pleine face qu'on avait peut-être bien détourné le regard sur une période de vie qui veut dire quelque chose. Et donc, c'est aussi à nous, là, c'est aussi à moi, en tant que directeur d'établissement, de participer à dire, regardez, ça peut être différent. On peut porter une vision positive sur les plus fragiles d'entre nous. On peut faire partie d'un projet social de territoire. On fait partie de la même communauté de destin. Et ça marche. Et donc, quand on interroge des sujets aussi fondamentaux que la fin de vie, que la dépendance... mais qu'on le regarde autrement que dans le registre de la perte, alors oui, c'est peut-être ça, pour moi, avoir l'esprit juillet, c'est de dire, mais la vie est peut-être pas tous les jours une fête, mais elle mérite d'être vécue à tous les moments.
Et d'être fêtée, en fin de compte.
Et lui rendre hommage. Donc, est-ce que c'est mon métier ? Je sais pas, à la base, je suis payé pour être hébergeur de personnes âgées dépendantes. On s'accordera que ça veut pas dire grand-chose.
Pour toi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais c'est important ce que tu dis là. Parce qu'effectivement, alors moi, je ne suis pas experte en EHPAD, hein, mais des maisons de retraite, voilà, j'en ai vu. J'ai aussi des grands-parents, des arrière-grands-parents que j'ai accompagnés dans cette situation-là. Et je n'ai jamais vu un EHPAD comme ici, celui de Bracieux. Et je te l'ai dit quand je suis arrivée là. Et c'est un vrai sujet pour moi, parce que je suis très, très proche de mes grands-parents. Et ça m'intéresse de savoir ce qui va se passer si un jour, ils ne peuvent plus rester chez eux, par exemple. Et je trouve que... j'ai pas le sentiment que la façon dont tu perçois ton activité, en tout cas comme tu me l'as présentée, comme je la vois ici, est quelque chose de commun, quelque chose qui fait modèle aujourd'hui.
Ici, on essaie d'être un laboratoire d'expérimentation sociale. Le fait que je devienne presque des fois un peu plus lisible, qu'on communique énormément sur ce qu'on fait. Hashtag réenchantons les solidarités, je l'ai utilisé des milliers de fois. Ça permet de positionner dans le débat public, de le rendre simple, sans qu'il soit simpliste, et de le rendre accessible à tous. Donc ça suppose d'épaissir le trait. Je reviens, est-ce que parfois c'est être excessif ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une stratégie très forte de dire « vous ne pourrez pas détourner le regard, et regardez, ce n'est ni violent, ni abrupt, ça peut être doux et apaisé. » Hashtag « réenchantons les solidarités ». Hashtag fier de mon EHPAD. Eh bien, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, je reçois encore des messages qui disent « Est-ce que je peux réutiliser ton hashtag ?» Mais si ça veut dire aujourd'hui qu'en fait, on est des milliers maintenant dans toute la France à dire « Nous voulons autre chose pour nos vieux », alors oui. Mais ça suppose derrière qu'on passe de l'effet guabo à un projet collectif partagé. Et c'est peut-être ça notre responsabilité. C'est de se dire que finalement, aujourd'hui, moi aussi, je suis à un autre moment de ma carrière. C'est-à-dire que là où parfois j'ai forcé un peu la porte, mis le pied dedans, pour dire « mais regardez ce qui se passe », Maintenant est venu le temps de se dire, ce n'est ni l'œuvre d'un homme, c'est une ambition tout entière d'une communauté de destin qui dit, nous savons que c'est possible et nous voulons que ça soit possible partout et pour tous.
Mais parce que tu portes en toi un projet plus grand que toi. Ou en tout cas, tu as cette ambition-là de te dire, je suis là et je veux construire quelque chose et je veux laisser quelque chose, j'ai un projet plus grand que moi.
Ça, c'est sûr. Ce qui est
Mais
sûr,
ça,
c'est que
juillet de ouf.
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je ne conçois pas ma vie sans dire que j'ai renoncé avant même d'avoir essayé, que Réenchantons les solidarités veut encore dire quelque chose. Moi, j'ai été saisi par des sujets aussi fondamentaux, des choses très simples, c'est quand j'ai repris la constitution de 58 qui dit « La France est une république laïque, indivisible et sociale », ça veut dire quoi quand on est en 58 ? Ça veut dire quoi quand en 45 on crée la sécurité sociale ou qu'on donne des droits sociaux aux gens ? Bah, c'était, il faut le rappeler, la sécurité sociale, quand elle a été créée, garantir des droits sociaux, c'était pour surtout se prémunir de la misère qui a entraîné l'Europe entière dans la guerre. On est en 2022. Donner des droits sociaux aux gens, leur permettre d'accéder à l'universalisme, de la culture, de la connaissance, de la protection sociale, c'est avant tout garantir une communauté de destin bien au-delà de notre seule action individuelle de mon travail de directeur d'EHPAD. Oui, il y a un engagement fort de se dire que ce projet est plus grand que moi. Et ce qui me fait beaucoup de bien, Charlotte, c'est qu'aujourd'hui, ce qui aurait pu être excessif d'un individu est porté aujourd'hui par des centaines d'autres de personnes et des milliers d'autres personnes dans toute la France. On est quelques-uns peut-être à avoir ouvert la voie. Ce qui me fait beaucoup de bien, c'est de se dire que nous sommes maintenant des milliers à le revendiquer. Il n'y a pas de politique partisane là-dedans, juste une aspiration à partager toute sa vie cette conviction qu'on ne sera jamais seul.
Tu vois, c'est pour tu pourrais faire le Bercy avec Orelsan, tu vois, dans sa chanson, son dernier album Civilisation. Mm-hmm. Orelsan, il dit j'étais seul, on est des milliers. C'est exactement ça, c'est-à-dire que tu commences, tu as un projet, tu es seul. Tout le monde te prend pour un fou, pour quelqu'un peut-être d'excessif, en tout cas un peu dérangeant. Et finalement, aujourd'hui, voilà, tu as des milliers de gens qui te suivent et finalement, entre guillemets, ils n'ont plus besoin de toi. Dans le sens, je veux dire, maintenant, ils ont leur route aussi à faire, ils portent le projet, et puis toi, tu peux...
Oui, et ce que je cherche à faire au quotidien, c'est extrêmement besogneux, en fait. C'est très concret, vouloir dire que toute sa vie, on est aimant, aimable et aimé. Ça veut dire quoi quand on accueille quelqu'un ? Vous êtes passé tout à l'heure et j'ai dit bonjour à tous ceux qui venaient et je m'intéresse à eux et je fais en sorte que les gens avec qui je travaille s'intéressent aux autres.
Ouais, t'as même raconté l'anecdote de la dame. Moi, j'ai vu que sa fille, elle n'était pas forcément contente. A priori, t'as fait faire du vélo à une dame, elle est quand même tombée dans la rivière. Moi, je me demande si ça vraiment, c'est quelque chose...
parce qu'en fait, elle existe en tant que sujet.
Mais exactement, j'ai trouvé ça drôle parce qu'être regardée en mode « mais t'as dit ça à ma fille », elle a l'air de dire « je vais encore me faire fâcher », je sais pas, tu vois, j'ai senti un truc un peu... je trouvais ça drôle, il y a une petite complicité
pour l'histoire,
sympa.
C'est une résidente qu'on comprenne, hein, c'est qu'on a la chance de travailler avec plein d'associations, dont une super asso qui s'appelle les Bromailles de la Bonheur, qui travaille maintenant avec le cycloclub de Montpré-Chambord, et on a des vélos adaptés. Donc même nous, les résidents les plus dépendants, ils font du vélo adapté. Et il s'avère qu'une de nos résidentes, qu'on aime beaucoup, elle a loupé un virage et elle a fini dans la Bonheur. Et là où ça aurait pu être un drame, tu vois, et ça dit quelque chose. Eh bien nous, on a remis pour ce que c'était, c'est-à-dire un accident de la vie. Bon, ça va bien, elle avait quelques égratignures, elle s'est remis en selle. Alors oui, elle est très âgée, on se dit qu'est-ce que faisait une vieille dame sur un vélo adapté et qui finisse de sur quoi dans
quoi.
La rivière. Elle a vécu.
Bah, c'est ça, mais ouais.
Elle a vécu.
Mais non, mais c'est sûr qu'on risque rien, si on vit pas, on risque rien.
Exactement.
Mais bon.
Et cette expérience-là, tu vois, elle est extrêmement signifiante. C'est-à-dire qu'on sort de l'anecdote pour devenir quelque chose partagé. Quand tu mets un résident sur un vélo et qu'en plus c'est un gamin du collège qui pédale dans le cadre d'un défi sportif et que en fait ça permet derrière de mobiliser des fonds pour qu'ils partent en voyage d'études, ce qu'on est en train de faire avec ce groupe-là, bah tu te dis tout ça n'est pas du cosmétique. Tout ça, c'était un projet extrêmement puissant qui est porté par la conviction profonde que toute période de sa vie mérite d'être vécue, même quand on est en situation de la plus grande fragilité.
Parce qu'on partage et parce qu'on est en lien et que voilà, on vit. Et donc, on peut se blesser si on vit.
On peut se blesser.
C'est pas très, très grave.
Voilà.
Mais comment alors ? Qu'est-ce qui fait que Pierre, un jour, Il décide de se passionner ou de se consacrer à cette cause de réenchanter les solidarités. Parce que sincèrement, on a travaillé ensemble sur ces sujets-là. Les métiers dans les EHPAD et en lien avec les personnes âgées, ce n'est pas les métiers les plus attractifs. On peine beaucoup à mobiliser des personnes sur ces carrières parce que c'est un métier qui n'attire pas, parce que la vieillesse et justement la perte d'autonomie, ça fait plutôt peur. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui attire. Et toi, comment tu t'es dit, mais ça, je vais m'engager là-dessus? Et c'est, pour moi, c'est essentiel.
Déjà, par mon histoire de vie aussi. Moi, je n'ai pas été directeur d'EHPAD. Je ne suis pas né directeur d'EHPAD. Hein. Je viens d'une famille. et puis, ce n'était pas à la base mon premier projet professionnel. Je viens de la Mayenne. Et le slogan de la Mayenne, pour l'époque, c'était marrant, c'était « Élargissez vos horizons ». Donc déjà, dans le titre du slogan de la Mayenne, c'est « Barre-toi de chez toi ».
Voilà, quoi. C'est ça.
Et donc,
Il faut que j'aille loin.
Il faut que j'aille loin et puis surtout que je fasse l'expérience d'ailleurs. Et je suis parti faire mes études d'infirmier à Rouen, où là, j'ai eu la chance de travailler avec des gens incroyables. Notamment, j'ai travaillé dans un hôpital de jour pour enfants, où il y avait beaucoup de populations migrantes qui avaient connu le déracinement, notamment sur les conflits en Afrique de l'Ouest, et avec des drames humains qui se sont joués, des souffrances énormes. Des gamins aussi en situation d'autisme que j'accompagnais. À l'époque, je m'étais spécialisé dans les troubles envahissants du développement. Et j'ai été saisi par ces vies à un moment qui peuvent basculer. Quand tu apprends à une maman, quand elle apprend par le médecin que son enfant ne sera jamais l'enfant qu'elle avait espéré,
ouais,
c'est-à-dire
bah oui.
et en même temps que la vie ne s'arrête pas, que la puissance de la vie fait qu'il y a quelque chose qui va nécessairement se produire, et que la deuxième étape de ma carrière, c'était de travailler auprès du grand professeur Michel, qui est un magnifique médecin dans un service de cancérologie et de soins palliatifs. Moi, à l'époque, j'étais cadre de santé, et mon job, ça a été d'accompagner l'évolution vers le suivi à domicile des patients suivis pour des cancers urodigestifs. Il y avait aussi qu'est-ce qui se passe dans la vie quand on te donne l'annonce d'un diagnostic
Bien
de
sûr,
cancer,
ouais.
où la vie avant s'arrêtait. On disait que tu avais un cancer, c'est quasiment la fin de la vie qui était
Bien
souvent
sûr.
Associée. Mmh. Et qu'aujourd'hui, il se passe plein de choses. Regarde ce qui se passe du côté des femmes et du cancer du sein. Regarde ce qui se passe aujourd'hui sur... On a réussi à parler du cancer colorectal avec Movember. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on porte un autre regard. On s'est tous dit, mais le cancer n'est pas une fatalité. Quand moi je suis sorti de Rennes, comme je te disais, je n'ai pas choisi les personnes âgées. J'aspirais à retourner en centre de lutte contre le cancer et qu'il y avait un poste qui s'est libéré seulement dans le secteur des personnes âgées. Ça a été aussi une chance de se dire finalement, mais quand tu découvres dans un moment de ta vie que tu ne pourras plus soit rester chez toi ou que le trouble neurocognitif, Alzheimer, maladie apparentée, rebat entièrement les cartes, est-ce que c'est une fatalité? Donc en fait, il y a beaucoup de points communs.
Est-ce que c'est pas l'opportunité
que c'est
de
pas
faire
une
autre chose?
Ouais, de faire autre chose et de regarder le monde autrement.
Mais tu vois, tu fais que de parler de chance depuis tout à l'heure, et moi, je ne crois pas du tout à ça. Alors évidemment, on a toujours plus ou moins de chance, mais c'est aléatoire. On a chance, malchance, etc. Mais c'est surtout la manière dont toi, tu vis les choses. C'est-à-dire qu'en fait, tu as croisé des gens, tu as eu des signes, et puis tu as saisi des opportunités. C'est-à-dire que c'est pas tu as eu la chance de rencontrer telle personne, ou tu as aussi eu toi, l'idée de dire, je vais en faire quelque chose, et je vais saisir cette opportunité-là pour apprendre, pour évoluer, pour faire autre chose de ma vie.
Ouais, je vais citer Solène, mon épouse, qui dit souvent un truc, notre histoire ne doit jamais être notre alibi.
Par exemple, exactement.
Et j'ai fait intimement, j'ai eu dans des moments de ma vie, des moments de situation de grande fragilité dans ma santé, dans mon parcours familial. D'aucuns pourraient convoquer son histoire de vie pour légitimer la situation ou l'inaction. Et j'aime cette phrase de Solène qui dit « Notre histoire ne doit jamais être notre alibi ». C'est au contraire, saisis-toi, mobilise-toi. Quoi. C'est-à-dire que,
qu'est-ce que tu fais de ça?
Qu'est-ce que tu fais de ça? Voilà. D'aucuns appellent ça la résilience. Ok, très bien.
Oui, c'est un terme à la mode.
C'est le terme à la mode. Concrètement, je ne sais pas si c'est être résilient. En tout cas, je me dis... je reprendrai ce que Solène me dit souvent, ton histoire n'est pas ton alibi. Et donc aujourd'hui...
Ce qui est dangereux en plus dans la résilience, je trouve moi, c'est qu'il faut faire attention à ce côté. Du coup, il faut cacher, ça va toujours bien. Ou chaque échec est l'occasion d'apprendre, etc. Ou, non, il y a aussi des moments où justement, non mais ça va pas en fait. Là, je vais pas bien, je suis en échec, etc. C'est pas une excuse, c'est pas pour ça, mais la résilience, tu vois, je trouve que ça cache un peu ce côté. Il faut aussi accepter des fois d'avoir des bas, et ça dit aussi sur ce qu'il faut Exactement. Faire pour en sortir. Quoi.
Et ça, c'est fondamental. Cette espèce de, quand on parlait de société un peu hygiéniste où tout doit être parfait,
c'est
beau,
ouais. c'est
c'est profondément dangereux. Et la première des choses, moi, qui me surprend quand je dis à quelqu'un, quand on a des résidents qui arrivent notamment avec des troubles cognitifs et que les proches arrivent, c'est souvent chargé d'une histoire longue, douloureuse, et je leur dis, vous n'avez rien demandé. On est un peu comme chez McDo. Venez comme vous êtes.
C'est ça.
Et venir sur des mots aussi déstigmatisants, en disant, on va essayer d'accueillir tout ça en fait. Et puis on va regarder, on va aménager. Alors, il n'y en a pas de recette, mais vous avez votre place avec nous, et peu importe la place que vous souhaiterez qu'on ait, on sera là. Pas rien que ça. Rien que ça. Dire, on n'est pas tout seul, et en plus on va surmonter ça et on va essayer de passer le moment le plus agréable possible. Je t'avoue que c'est déjà se sentir profondément vivant.
Ouais, et humain, pour le coup, relié, quoi. Et alors, avec toutes ces inspirations culturelles que tu as, on le voit, tu es un homme de toute façon qui est porté par l'art, quel que soit l'art, parce que je pense que ça t'aide aussi à prendre de la hauteur, justement, sur ce qui fait le lien entre les gens. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un, ou est-ce que tu pourrais nous donner une personne qui t'inspire le plus aujourd'hui ?
Oui, c'est le dernier. Mes amis m'ont offert pour mes 40 ans une œuvre d'une artiste qui est incroyablement puissante, qui s'appelle Françoise Petrovitch, qui interroge dans son travail beaucoup la question du tabou et du secret, beaucoup sur la place des adolescents, mais pas que d'ailleurs. Elle interroge beaucoup cette question de la fragilité. Une œuvre de Françoise Petrovitch est capable de me faire pleurer intimement. Non pas seulement pour l'écho qu'elle pourrait avoir à titre personnel, mais parce qu'en fait, Françoise, comme beaucoup d'artistes, quand ils ont du talent, sont capables de nous donner à percevoir ce que nous n'avions même pas compris. L'indicible. Ça, c'est une artiste qui, depuis quelques années, m'accompagne par un de mes grands amis qui s'appelle Denis Lucas, qui lui, était son métier de développer les politiques culturelles. Je reste profondément attaché au travail de Sylvain Groux, qui est chorégraphe, qui dirige le Ballet du Nord, parce qu'il est capable, c'est le seul qui est capable de danser sans musique, hein, je crois. Hein,
Est-ce que c'est celui que j'ai rencontré quand on t'a remis
la Légion d'honneur,
où il faisait danser, mais c'était fabuleux ça. Il expliquait qu'en fait, il danse devant des personnes âgées, donc fortement dépendantes, et qui ne bougent pratiquement plus, et que finalement, à danser devant elles le suivent, à la limite, elles se mettent elles-mêmes à danser.
Exactement.
C'est incroyable.
Et on ne danse pas forcément avec ses jambes, et des mains peuvent bouger, et ça peut devenir extrêmement puissant. Sylvain Groux est un des plus grands chorégraphes français et européens. J'ai eu la chance de le croiser dans ma carrière, il est devenu un ami, il est venu danser avec nous dans le territoire, il m'a fait l'amitié de venir danser lors de cette cérémonie.
Ah, mais c'est un détail alors, hyper personnel, hein, mais j'ai eu l'honneur d'être invitée à cette cérémonie, et j'y suis venue avec ma fille, et elle a été totalement bluffée par le chorégraphe. Donc ma fille, elle a 7 ans, elle s'est levée, elle l'a regardée, elle était totalement impressionnée. Et j'ai trouvé ça fort parce que justement, typiquement, c'est ça, les enfants, il n'y a pas justement cette éducation, ce filtre ou cette façon d'être que nous, on essaye d'avoir quand on est à une cérémonie comme ça, un petit peu officielle. En fin de compte, elle était là, naturelle avec tout ce qu'elle est, et ça l'a complètement arrêtée, elle était scotchée par cet homme. J'ai trouvé ça génial, magnifique.
Eh bien, c'est très touchant ce que tu peux témoigner, parce que cette cérémonie, c'était aussi l'occasion de rendre hommage. Non pas, là, c'était... moi, je suis que de la génération Covid. Je suis le reflet d'une époque, comme je l'ai dit lors de mon discours. Donc, il faut être très... Je suis très prudent. Je dis que j'ai voulu, ce jour-là, rendre hommage, justement, à ceux qui ont été capables de donner à voir le monde autrement. Sylvain, Françoise Petrovitch font partie des gens qui m'inspirent beaucoup, mais comme on a Marion Dutoit, qui est une artiste plasticienne, qui est venue en résidence chez nous, qui fait des choses incroyables, qui a même fait le choix, d'ailleurs, depuis notre collaboration, de venir s'installer en Loire-et-Cher, comme quoi la vie est parfois surprenante. Et puis, je ne m'interdis rien, c'est-à-dire que depuis 5 ans, plus de 21 artistes sont venus en résidence dans nos résidences de toute la France. Je trouve ça incroyable. On a un artiste de la région que je trouve extraordinaire, qui est Sébastien Salaman, alias Le Turc, qui est un photographe d'art, qui est un type extraordinaire.
Il fait des trucs vraiment un peu le cirque, un peu. Mais j'ai vu ça sur. Et je le connais pas, mais j'ai vu sa page sur
Il
Internet.
Il donne à voir la question de la fragilité, de ce qui certains auraient appelé le grotesque. Devient quelque chose de désirable. Ça, c'est un artiste qui me touche profondément. Et je pourrais t'en citer tout le temps. Là où je reviens, c'est que il n'y a de rencontres que quand on les permet. Et je crois que c'est essentiel, ça. De se dire que, dans l'absolu, que viennent faire Juillet ici ? En fait, cette rencontre d'aujourd'hui...
Il n'y a même pas un coup à boire, donc c'est pour te dire.
Encore. Pas encore un coup à boire. Ce que je trouve assez génial, c'est de se dire, finalement, c'est souvent sur le côté de l'inattendu qu'il faut être, mais c'est pas en cherchant d'être à côté. C'est simplement en se disant, je suis là, regardez, pourquoi pas, et qu'est-ce qu'on aurait envie de faire ensemble. Quand tu accueilles ça en permanence, de se dire, est-ce que c'est une contrainte ou c'est une opportunité ? Waouh ! Bah, y a là, hein. Tu te lèves le matin et ça te donne une énergie de fou, quoi.
Mais surtout que ce podcast, tu sais, on l'a créé justement en pleine période Covid, hein, c'est pareil. Alors nous, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux, mais tu vois, on décide de créer une agence événementielle et puis boum, Covid. Donc forcément, nous en plus, on a décidé qu'on ne ferait pas de digital, c'est pas du tout notre sujet. Nous vraiment, on est sur la rencontre, les événements où les gens se voient physiquement. Donc clairement, bah, Covid, on est stoppé. Et on se dit, mais comment on peut quand même aller à la rencontre des gens, garder ce qui est ancré en nous et arriver à transmettre cette richesse qu'on a quand on rencontre quelqu'un et qu'on discute avec lui vraiment physiquement. Et donc, on a créé ce podcast pour aller à la rencontre de personnes qui, justement, nous parlent de leur vie, de leurs liens, de leurs rencontres, et en essayant de le transmettre. Et là, moi, je suis hyper fière aujourd'hui parce que là, on te parle et ce que tu dis, on va pouvoir le diffuser, le transmettre. Il y a des gens qui vont te rencontrer à travers ce podcast et j'espère vraiment qu'ils te feront des retours sur ce que ça leur a apporté parce que c'est pas anodin tout ça. Nous, au moment où on crée Juillet, où on réfléchit à Juillet en plein Covid, on tombe avec Cédric sur une vidéo d'une philosophe belge qu'on ne connaît pas et qui intervient à la télé belge. Et alors, lui comme moi, on a des vies assez occupées, comme toi aussi. On ne regarde pas la télé, et encore moins les chaînes belges, si tu veux, ça ne nous arrive jamais. Et là, on tombe dessus parce que bah, on a le temps. On est confiné et que finalement le fil Instagram nous renvoie des notifs et qu'on voit cette intervention. Et elle parle d'Albert Camus, qui est moi un écrivain qui me touche énormément. Tu vois, comme toi Malraux, je suis pourtant pas de la génération Camus, mais voilà, j'adore cet écrivain. Et elle parle de son été invincible, de Camus et l'été invincible. Et forcément, on est en train de créer la marque Juillet sur ce principe-là de l'été invincible qu'on porte en nous et qui est la flamme en fait qu'on a en nous et qui peut être n'importe quelle passion mais qui nous guide au quotidien. Et on se dit mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on est en train de créer cette marque et cette femme, elle raconte ce qu'on vit, ce qu'on est en train de faire. Et donc on l'a contactée, genre le truc improbable. Et la nana, évidemment, après le Covid, quand on a eu un peu le droit de sortir de chez nous, on a été la rencontrer sur Paris, on a discuté avec elle et ça a été une rencontre mais incroyable. Mais je pense que cette rencontre, elle a changé notre projet, échanger notre vie et notre façon de voir plein de choses. Et c'est une femme qu'on a rencontrée, tu vois, sur des mots, sur de la culture, sur Albert Camus. Donc, enfin, tu vois, et voilà. Et on est là aujourd'hui, c'est pas un hasard. Ça, c'est sûr, c'est pas un hasard.
Eh bien, quand tu cites Camus, ce qui a été déterminant pour moi, c'est un livre que j'ai lu. J'étais au lycée, je finissais mon lycée, encore une fois avec ma mère qui était éprise de Kundera sur un livre qui s'appelle « La plaisanterie ». Et la plaisanterie a changé ma vie. Comme quoi, sur une farce, ce livre est puissant, parce que sur une mauvaise blague, la vie de quelqu'un peut parfois complètement déraper. Et c'est extrêmement puissant, la plaisanterie, ce qu'elle donne à voir dans la littérature un peu sophistiquée de Kundera. La lecture de notre engagement à l'autre autrement, dans la vie autrement. Il y a des œuvres qui nous bousculent et qui font qu'il n'y a plus de retour en arrière possible.
Exactement.
Ce qu'il faut, c'est permettre ça. Moi, j'ai fait le choix de rester vivre en Loir-et-Cher. C'était une mission de que quelques mois à la base. J'avais une vie en fait, hein, de bobo. Hein. J'habitais Rouen, centre-ville, des propositions culturelles, une petite vie dans un CHU qui me plaisait très bien. La famille à côté et tout allait très bien. J'ai fait le choix de rester en Loir-et-Cher. Justement parce que tout est possible et encore plein de choses sont à construire. Que dès lors que tu t'engages, tu peux déplacer des montagnes. Il faut être très clair, je n'aurais jamais fait la carrière que j'ai aujourd'hui à Rouen parce qu'on était des milliers dilués.
Oui, mais tu aurais pris moins de risques, tu aurais une vie plus confortable.
Ouais, avec des super propositions.
Tu aurais peut-être mieux dormi.
Ça, c'est pas difficile. Mais en même temps, ici, justement, on a la possibilité de déplacer des montagnes. Parce que finalement, on est un département à taille humaine. Moi, j'ai fait le choix de vivre là où je travaille. C'est un choix, là, pour le coup. Moi, j'habite Bracieux. J'ai d'autres résidences, mais je vis dans nos territoires ruraux. Et je m'y engage en dehors de mon engagement professionnel. Modestement, autant que j'ai. Mais c'est pas un supplément d'âme, c'est une nécessité, en fait. De se dire que on peut agir profondément là où on vit, là où on travaille, et que j'ai jamais rencontré autant de gens formidables. Il n'y a pas une journée où j'ai l'impression de ne pas avoir fait une rencontre de fou. Et de dire que toutes ces énergies-là, elles peuvent faire quelque chose. Ça fait quand même sacrément du bien. Et à chaque fois, c'est par l'art et la culture que j'ai réussi à rencontrer des gens incroyables. Et aussi par un autre sujet qui vous tient à cœur et qui me tient à cœur, c'est entreprendre.
Mais oui.
Et finalement, moi aujourd'hui, je suis directeur d'un EHPAD et d'EHPAD public. Mais c'est aussi entreprendre, non sur la vision exclusivement financière, bien qu'on a aussi besoin d'argent pour faire fonctionner les projets, et ça, il ne faut pas l'oublier. Entreprendre, c'est aussi considérer qu'on ose. On prend des risques, mais on développe son territoire, et on développe les... Avant tout, on est avant tout là pour permettre le développement humain. Donc, entreprendre, ça sera certainement, moi, ma prochaine étape. Je crois que j'ai encore quelques années à faire ici pour définitivement ancrer cette utopie, comme oui, le dit
pour
souvent,
avoir le sentiment que tu as fait ta part.
Ma part, et qu'on a cranté. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on ne retournera pas en arrière. Donc là, je pense qu'il y a encore quelques mois, quelques petites années devant nous. Mais justement, parce que j'ai découvert dans ce territoire des entrepreneurs comme vous deux, que par Audrey, par les collègues du MEDEF et de plein d'autres que j'ai pu rencontrer, entreprendre, c'est plus qu'un projet économique, c'est avant tout un projet humain. Et je crois qu'aujourd'hui, la prochaine étape professionnelle, ça sera autour de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas encore sous quelle forme, parce que je m'autorise la magie de la rencontre. Et puis que j'ai 40 ans et qu'il me reste encore des belles années
devant
moi. Bah
oui, au moins deux, qu'est-ce que t'en penses ?
Voilà. Et puis, ça c'est essentiel de se dire qu'on ne ferme pas la prochaine étape. Et peut-être que ça sera autre chose, mais en tout cas, celle-ci m'enthousiasme. Et puis, un rêve plus personnel, c'est que j'adorerais, sur le même modèle que le tiers-lieu culturel qu'on va ouvrir dans les prochaines semaines à Bracieux, ouvrir ma propre résidence d'artiste chez moi, un jour, dans un lieu que j'aurais identifié. Autour des jeunes artistes de la région et aussi accueillir des artistes du monde entier sur un projet vraiment à taille humaine que j'aimerais porter ici un jour. Donc il y a encore des belles années.
Alors c'est ça, tu as devancé la question qu'on pose à chaque fois à la fin, mais c'est normal parce que je ne suis pas étonnée que tu aies devancé ça parce que de toute manière, tu es tournée vers demain tout le temps. Et donc, du coup, c'est ça ton demain, ce projet-là, ça me rassure un petit peu, ton demain, il est quand même ancré en Loir-et-Cher. Parce que tu sais qu'à un moment, je me suis dit, ah, il en a marre, à force
non,
de lutter, il va partir.
C'est, en fait, non, c'est aussi savoir profiter d'aujourd'hui. Ça fait seulement 5 ans hein, que je suis arrivé ici, au 1er janvier, ça fera 5 ans.
C'est bien.
Ces années, elles valent double, elles valent triple. Elles ont été intenses, marquées par le Covid dans mon quotidien professionnel, mais aussi marquées par la richesse de ces rencontres. Donc, le lien avec le Loir-et-Cher, il sera à vie. C'est sûr. Et ce qui sera en permanence en Loir-et-Cher, je ne sais pas, personne ne peut prédire
l'avenir. C'est sûr, évidemment.
En tout cas, les prochaines années seront en Loir-et-Cher, je l'espère, parce que je crois qu'il y a encore des beaux projets à relever ensemble. que j'ai décidé aussi d'y installer ma famille, et que pour ça c'est aussi important. Les prochaines années, elles seront capitalisées sur ce qui se fait aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la prochaine étape, c'est en quoi aujourd'hui permet demain.
Tu construis, exactement. En quoi chaque choix, chaque décision, chaque acte que tu fais aujourd'hui construit ce que tu feras demain.
C'est pas tellement l'avenir qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui on construit, on partage, qui amène la prochaine étape. J'ai pas d'obsession de l'avenir. L'avenir, je l'accueille. Le quotidien se construit.
C'est une belle conclusion. Merci Pierre.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Juillet, et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires, c'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos comptes Agence Juillet et à nous écrire sur Instagram, Facebook et LinkedIn, on répond toujours. Et on se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.